les pharisiens lui demandent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme n'est pas issu de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes ?» Et il y avait division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, « Est-ce là votre fils dont vous vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il donc qu'il voit maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il se fait qu'il voit maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour parler de lui-même, de ce qui le concerne. » Et ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. Car déjà, les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un reconnaissait en lui le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et c'est pourquoi ses parents dirent, « Il est assez grand, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau ? Voulez-vous vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es un disciple de celui-là. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Que vous, vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux ? Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Toi, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous instruis ?» Et ils le chassèrent dehors. Jésus entendit dire qu'il l'avait chassé dehors. Il le trouva et lui dit, « Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu. Celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit, « Moi, je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui lui dirent, « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Et Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » Aussi votre péché demeure. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Que ta parole, Seigneur, ce matin, nous instruise, nous parle, nous corrige, nous fasse avancer avec toi. Amen. Nous avons tous des angles morts quand nous observons la réalité. Notre vision du monde est toujours une vision partielle, tronquée. La manière dont nous percevons le monde dépend de notre éducation, de nos origines, de l'histoire familiale, de notre système de croyances que nous nous sommes peut-être fabriqués, de la culture aussi dans laquelle on est immergé. Et l'enjeu du récit de guérison que nous venons de lire, c'est de nous ouvrir les yeux sur, je dirais, la pleine réalité, la réalité telle que Jésus aimerait nous la faire percevoir. Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour élargir la vue de ceux dont la vue est étriquée. Nous n'aurons pas l'occasion de méditer l'entier de ce chapitre. Le temps est trop court, mais j'aimerais poser quatre questions au récit en m'intéressant plus particulièrement au début de ce récit. Tout d'abord, quel est le fond du problème? Deuxièmement, pourquoi Jésus guérit cet aveugle? Troisièmement, qu'est-ce que l'homme a fait pour mériter l'attention de Jésus et mériter cette guérison? Et quatrièmement, comment Jésus procède-t-il pour guérir? Alors, première question, avant que nous nous arrêtions à l'issue de ces quatre questions pour nous demander où sommes-nous, nous, dans ce récit, première question, quel est le fond du problème? Au moment où le récit débute, Jésus irrite passablement les chefs religieux. Son action, ses miracles, son enseignement indisposent notoirement les religieux de son temps. Et certains ont cherché à l'arrêter déjà. D'autres l'ont accusé d'avoir un démon pour parler de la sorte. Et au moment où notre récit débute, on vient de chercher à lapider Jésus, à lui lancer des pierres pour le tuer, et Jésus doit s'enfuir. Il sort du temple où il enseignait, et il cherche à aller se cacher. Mais voilà qu'en sortant du temple, sur sa route, il y a un homme qui est là, au bord de la route, en train de mendier, qui est aveugle. Cet homme attire l'attention de Jésus, il ne peut pas passer son chemin, et il s'arrête vers cet homme infirme en train de mendier. Son handicap à cet infirme l'empêche de trouver du travail. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu la couleur du soleil, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la vie, en fait, avec les couleurs de la vie. Il me fait penser un peu à la femme dont on a parlé la semaine dernière, avec Ducarmel, cette femme avec des pertes de sang, qui elle aussi était complètement exclue socialement. Cet homme aussi est complètement exclu socialement. Il n'a pas vraiment sa place dans la société. En voyant cet homme, Jésus aurait pu passer son chemin. À ce moment-là, il a d'autres préoccupations. Il doit chercher à sauver sa vie. Est-ce que ça n'aurait pas été une raison légitime pour aller plus loin et faire autre chose que de prendre du temps avec cet infirme? En s'arrêtant, ses disciples qui sont avec lui commencent à réfléchir. Ils se posent des questions. Ils discutent. Ils voient un handicapé et généralement, quand nous voyons une personne handicapée, cela nous interroge, ça nous interpelle. Combien souvent avons-nous déjà aussi réfléchi quand nous voyons des handicapés autour de nous? Les disciples s'interrogent sur la personne handicapée. Pourquoi est-il infirme? Pourquoi est-il né aveugle? Mais remarquez que pendant qu'ils discutent, ils sont à côté de la personne. L'aveugle peut-être les entend discuter. Mais eux discutent en vase clos, comme si l'infirme n'existait pas, comme s'il n'avait pas sa place. Ils ne se préoccupent pas de savoir ce qu'il pense, ce qu'il vit. Ils sont simplement à discuter un cas théologique bien intéressant. Pourquoi cet homme est-il infirme? Au fond, quel est le problème qui se pose? Pour un juif de l'époque, il était assez évident qu'une personne qui avait une infirmité avait vraisemblablement commis un péché. Si cet homme est aveugle, cela doit être la conséquence de son péché. Mais l'explication ne satisfait pas pleinement parce qu'il est né aveugle. Comment aurait-il déjà pu pécher avant sa naissance? Donc est-ce dès lors un péché de ses parents qui aurait entraîné cette cécité? Ou peut-être un péché héréditaire? Puisque le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 5, nous dit que quand il y a faute des pères, Dieu fait rendre des comptes au fils jusqu'à la troisième ou même la quatrième génération de ceux qui s'opposent à lui. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'injustice? Est-ce que Dieu punisse un innocent, un bébé, qui n'y est pour rien dans la faute de ses ancêtres? Jésus entend la discussion. Je ne sais pas s'il se fâche, mais en tout cas, il répond tout net, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Le problème de la cécité ne vient pas d'un péché, de l'aveugle, ou de ses parents, ou de ses ancêtres. Jésus est formel. Et permettez-moi de m'arrêter un petit moment sur cette question, parce que je la rencontre assez souvent chez les croyants. Si nous lisons attentivement l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que l'Ancien Testament établit un lien possible entre la maladie et le péché. Mais nous nous rendons compte aussi que ce n'est ni systématique ni obligatoire. Job, par exemple, était un innocent devant Dieu, alors même qu'il a été terriblement atteint dans sa santé. Donc il faut comprendre que quand il y a maladie ou infirmité, c'est là la conséquence de manière large de tout le cortège du mal qui a découlé de la chute dans le jardin d'Éden. En Éden, tout a été déréglé. Toute la belle harmonie qui régnait a été mise à terre. Et c'est dans ce sens-là que la maladie, aujourd'hui, peut nous atteindre, chrétiens ou non-chrétiens. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous aurions une place nécessairement privilégiée. Nous faisons partie de ce monde, nous endurons les conséquences du mal qui est entré dans ce monde. Nous ne sommes pas encore dans l'ordre de la rédemption, dans laquelle toutes choses seront nouvelles. Mais ce qu'il faut dire à propos de la maladie, c'est que si elle n'est pas nécessairement liée à un péché personnel, elle est liée à ce dérèglement global. Ce dérèglement qui touche toutes les dimensions de l'être humain, pas seulement le physique, mais aussi le psychique, le spirituel. C'est le docteur Paul Tournier, peut-être quelques-uns d'entre vous l'avez lu, ce sont des livres qui datent un peu maintenant, mais le docteur Paul Tournier qui a été l'un des précurseurs de la médecine globale. Il s'est rendu compte que lorsque nous soignons les symptômes de la maladie avec des médicaments, on n'empêche pas nécessairement la maladie de réapparaître. On a soigné les effets de la maladie, mais pas nécessairement les causes de la maladie. Or, souvent, notre mode de vie entraîne des conséquences physiques. Et nous ne sommes pas souvent prêts à réfléchir à notre manière de vivre. Paul Tournier écrit un livre qui s'appelle « Médecine de la personne ». Et il écrit ceci, il dit « La plupart des maladies ne viennent pas, comme on le croit, à l'improviste. Elles sont préparées pendant des années par des fautes de régime, des intempérances, du surmenage, des conflits moraux qui lentement entament la vitalité du sujet. » Et j'ajoute que chez Tournier, quand il parle de conflits moraux, il inclut aussi les questions de culpabilité et les questions de péché non résolus. Et Tournier ajoute, quand un jour les maladies éclatent, ce serait pratiquer une médecine bien superficielle que les soigner sans remonter à leur cause lointaine, à tout ce que j'appelle des problèmes de vie. Et il ajoute, Dieu a un plan pour notre vie. comme il a un plan pour le monde. Et si le monde aujourd'hui est malade parce qu'il désobéit aux lois de Dieu, les hommes aussi sont malades parce qu'ils ne vivent pas selon le plan de Dieu. Et toute désobéissance physique, psychologique ou morale au plan de Dieu est une faute de vie et comporte des conséquences. En fait, Tournier ne dit pas autre chose que ce que dit ou fait déjà Jésus. Jésus est bien conscient qu'il ne suffit pas de guérir la maladie physique, mais qu'il faut s'attaquer à la maladie dans tout ce qu'elle représente. Et Jésus déjà pratique une médecine holistique. Combien souvent inclut-il la dimension morale, la dimension spirituelle dans la guérison ? Pour Jésus, guérir quelqu'un, c'est aussi le restaurer dans ses relations. C'est aussi le restaurer dans sa relation avec Dieu. Et c'est exactement comme cela qu'il va s'y prendre avec l'aveugle-né. Il ne soigne pas que la maladie, mais il soigne le malade. Les disciples lui disent « Rabbi, qui a péché ? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Si vous comprenez bien ce que Jésus dit, c'est qu'il cherche à détourner l'attention de ses disciples. Ses disciples sont focalisés sur le pourquoi, sur la cause de la souffrance. Et Jésus dit, intéressez-vous non pas à la cause de la souffrance, mais au but de la souffrance. Le fond du problème, ce n'est pas pourquoi cette infirmité, pourquoi cette maladie, mais dans quel but ? Qu'est-ce que Dieu veut opérer au travers de ce handicap ? Comment veut-il se glorifier ? Jésus réoriente le regard de ses disciples. Quand on pose la question du pourquoi, et nous sommes tous tentés de le faire, nous cataloguons, nous jugeons souvent la personne qui souffre. Nous pouvons même en arriver à l'accuser d'être responsable de ses maux. Et la question du pourquoi est une question qui isole, qui enferme, qui crée de la distance. Quand Jésus pose la question « dans quel but ?», il ouvre une fenêtre, un espace, qui permet de vivre et d'exister. Cette question cherche à voir comment Dieu peut utiliser un mal pour le renverser et en faire sortir un bien. Je suis conscient que tous les malades n'ont pas toujours une réponse très claire sur comment Dieu va réussir à tirer un bien à partir du mal. Mais la foi dans la parole de Dieu nous assure que Dieu, un jour, va de toute manière renverser ce mal pour en tirer un bien. Je pose une deuxième question au texte. Pourquoi Jésus guérit-il cet homme ? La réponse de Jésus à ses disciples est un peu énigmatique. Versets 4 et 5, il dit « La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » On sent qu'il y a un sentiment d'urgence. La nuit approche, il faut agir vite, il n'y a plus beaucoup de temps. Et ce que Jésus fait, lui seul peut le faire. « Je suis la lumière du monde, » dit-il. Et en cela, l'œuvre de Jésus a un caractère qui est unique, inimitable. Seul Jésus est la lumière. Nous ne sommes pas la lumière. Nous ne pouvons que refléter la lumière. Nous sommes comme la lune qui reflète la lumière du soleil. Mais il y a un seul soleil. Et dans ce sens-là, les actions de Jésus, ses œuvres, ses miracles ont un caractère qui est inimitable. Il est inimitable pour au moins trois raisons. La première, c'est que personne n'a jamais guéri des aveugles de naissance. C'est l'aveugle lui-même qui le dit. Il dit « Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci, c'est-à-dire Jésus, n'était pas issu de Dieu, Il ne pourrait rien faire. Voyez que l'aveugle reconnaît que ce miracle ne peut venir que de Dieu et que celui qui a opéré le miracle ne peut être que le Fils de Dieu. Il a la qualité de Dieu. Il est bien l'envoyé de Dieu, le Messie promis. Les miracles sont donc là pour authentifier que Jésus est bien l'envoyé de Dieu, le Messie promis. Deuxième raison pour laquelle l'œuvre de Jésus est inimitable, c'est que ces miracles ont aussi pour fonction d'annoncer l'inauguration d'un royaume. Dieu vient pour inaugurer un royaume de lumière. Ce royaume va chasser progressivement le mal et les ténèbres. Seul Jésus peut faire cela. Mais le miracle qu'il va opérer avec l'aveugle marque l'avènement de ce royaume de Dieu. Troisièmement, Jésus est inimitable parce que personne n'a jamais fait autant de miracles que lui, ni avant, si vous regardez Élie ou Élisée par exemple, qui ont fait de nombreux miracles, ni après, si vous prenez en compte les disciples de Jésus. Par ailleurs, personne n'a jamais eu un taux de réussite à 100%, comme c'est le cas de Jésus. Personne n'a non plus jamais obtenu des guérisons instantanées, toujours instantanées, comme c'est le cas de Jésus. Jésus n'avait pas besoin de persévérer dans la prière pour que la guérison s'opère. La guérison était souvent mise en lien avec le pardon des péchés. Quand Jésus guérit des aveugles, il en a guéri beaucoup. Il guérit pas seulement la cécité physique, mais aussi l'aveuglement spirituel. Donc Jésus est unique. Pourquoi Jésus guérit-il cet homme? Pour affirmer qui il est, pour faire venir son royaume, pour montrer que Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Troisième question. Qu'a fait cet homme pour mériter sa guérison? On ne sait pas grand-chose de cet aveugle. On ne connaît pas son âge. Mais on sait que depuis sa naissance, il a eu le temps de se poser mille et une questions. Pourquoi devait-il vivre avec un handicap si lourd? Pourquoi devait-il être pénalisé sur un plan social? Il n'y avait pour lui aucun espoir que sa situation puisse un jour changer. Tous les jours, il était là, assis à la porte du temple, qu'il devait mendier pour pouvoir subsister. J'ai dit avant que Jésus réorientait le regard pour poser la question « dans quel but ?» Mais quel est le sens de cette question pour cet aveugle né? Dans quel but suis-je né aveugle? Ça semble n'avoir aucun sens. Et pourtant, arrive un jour où Dieu va intervenir dans sa vie. Ce jour, c'est le jour où sa route croise celle de Jésus. Ou je devrais plutôt dire où la route de Jésus croise le chemin de cet infirme. Parce que si vous observez bien le récit, l'aveugle n'a rien demandé. Il n'a pas fait appel à Jésus. Il n'a pas prié. Il n'a pas demandé une onction d'huile. Rien. Rien du tout. C'est Jésus qui a croisé sa route. C'est Jésus qui a surgi dans sa vie. Un jour où probablement il n'attendait rien, il n'attendait pas Jésus, un jour ordinaire, comme tous les autres. Mais ce jour-là, Jésus passe. Et en passant, il voit et il s'arrête. Cet aveugle était juif. Il avait une foi en Dieu. Il a fait son catéchisme. Mais jusque-là, il ignore tout de Jésus. Est-ce en raison de sa foi dans sa guérison ou sa foi en Jésus, que Jésus va intervenir? Moi, je ne pense que non. Il n'y a rien dans le texte qui nous montrerait qu'il faut voir, avancer dans cette piste-là. Si Jésus vient à lui, ce n'est pas parce qu'il le mérite, ce n'est pas parce qu'il aurait manifesté une grande foi, ce n'est pas non plus parce qu'il aurait beaucoup prié. Mais Jésus s'arrête. Et c'est simplement une grâce. C'est un cadeau. Dans ce récit, l'aveugle ne demande rien. Il n'a rien fait pour mériter sa guérison. Tout est grâce de Dieu. Quatrième question. Comment Jésus a-t-il guéri? Vous en conviendrez, la méthode de guérison est quelque peu particulière. Même si aujourd'hui on emploie la boue pour faire des thérapies, Jésus crache par terre et il fait un peu de boue avec sa salive. Ensuite, il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Ce qui est intéressant, c'est que le verbe « appliquer » en grec veut aussi dire « oindre ». Ce qui veut dire que Jésus oint les yeux de l'aveugle avec de la boue. Et quand on parle de « oindre », il y a nécessairement une dimension spirituelle derrière le geste. Comme si, en plus de la cécité de naissance, Jésus venait aussi traiter très directement l'aveuglement de cet homme, l'aveuglement spirituel. Et remarquez aussi que Jésus n'opère pas une guérison à distance, une guérison froide en lui donnant simplement un médicament. Il vient le toucher, il cherche le contact. Et en créant le contact, il cherche la confiance. Et c'est grâce à ce contact que la foi va pouvoir naître chez cet homme. Si Jésus utilise de la boue pour guérir, ce n'est pas que la boue en soi est un remède ou une méthode qu'on devrait maintenant imiter chaque fois qu'il y a un aveugle. Ce n'est pas une technique qui guérit l'aveugle. C'est bien la puissance de Dieu. Certains, tout bien intentionnés qu'ils sont, se disent qu'il faut simplement imiter les choses. Si Jésus a fait comme cela, faisons de même. Mais ce n'est pas à cela que nous invite le texte. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples d'imiter la méthode. C'est dans la magie, c'est chez les guérisseurs païens que l'on doit observer des rituels, des méthodes, réciter des formules précises pour obtenir la guérison. Mais dans la foi chrétienne, c'est toujours Dieu qui apporte la guérison. Et la guérison dépend de sa volonté et non pas de l'application d'une méthode. Un des indices que nous avons et qui nous pousse dans cette voie, c'est l'ordre que Jésus donne à cet aveugle. Il lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé ». Or, Siloé, c'est un mot qui veut dire « envoyer ». Et c'est un mot qui s'applique à Jésus aussi, puisque Jésus est l'envoyé de Dieu. Cet aveugle a besoin d'aller auprès de l'envoyé pour être guéri, pour être lavé. Et quand on dit être lavé, on entend aussi être purifié, être sauvé. Pour qu'il obtienne sa guérison, il doit faire confiance à une parole qui semble anachronique, ne pas avoir de sens en elle-même. Va te laver au réservoir de Siloé. Il aurait très bien pu dire pourquoi, mais au lieu de cela, il fait confiance. Confiance à Jésus. Il va à ce réservoir, il se lave et il va être guéri. Or Jésus s'est présenté comme celui de qui sortent des fleuves d'eau vive. N'est-ce pas le plus grand des réservoirs? Aller à Siloé, c'est aller à Christ. L'aveugle a obéi, il a été guéri, il est allé à Christ et Christ l'a guéri. Il est vraiment intéressant de voir comment la foi de cet homme évolue au fil du récit. Vous êtes rendu compte à la lecture de cet évangile combien de fois on vient lui demander de raconter son histoire. Et à chaque fois, il raconte la même histoire, mais un peu différemment. Tout d'abord, la première fois, il parle de Jésus comme de l'homme qui l'a guéri. Mais quand il fait pour la deuxième fois le récit de son histoire, il dit de Jésus que c'est un prophète. Et quand il en parle pour la troisième fois, il parle de Jésus comme d'un maître dont il est devenu le disciple. Et quand les religieux en viennent à accuser Jésus, il en vient à prendre sa défense. Et tout à la fin, il dira que Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu. Donc en devant se positionner, sa foi grandit Et c'est souvent comme cela que notre foi grandit, c'est que nous sommes confrontés à des personnes qui nous poussent à nous positionner. Et j'aimerais vous inviter à vous positionner aussi ce matin, à vous positionner face à ce récit et à vous positionner face à Jésus. On voit dans ce récit combien cette guérison suscite des interrogations. Face à l'action miraculeuse de Jésus, il y a deux groupes qui se forment. Ceux qui acceptent de croire et ceux qui refusent de croire. Et l'aveugle doit sans cesse se justifier et raconter ce qui vient de se passer. Pour lui, les choses semblent assez simples. Verset 11. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux. Il m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ça paraît si simple. Il y a un fait qui est là, indiscutable. Avant, il était aveugle. Maintenant, il voit. Comment peut-on discuter de cela? Mais devant ce qui semble incontestable, certains viennent opposer le doute. Pourquoi? Parce qu'ils ont des présupposés et qu'ils ont une certaine vision du monde qui s'oppose à la réalité des faits. Ce miracle est impossible pour certains. D'abord pour les voisins, ensuite pour les religieux. Ces religieux qui sont tellement certains de posséder le savoir théologique qui leur permet de se prononcer sur ce cas. N'est-ce pas eux qui sont les représentants du savoir théologique en Israël? Ils disent au verset 24, « Nous savons, nous savons. Nous savons qu'il est impossible qu'un miracle qui vienne de Dieu puisse se produire un jour de sabbat. C'est impossible, Dieu ne peut pas transgresser sa loi ainsi. Et si c'est impossible, bien c'est que ce miracle n'a pas eu lieu. Et donc que l'homme qui a opéré ce geste, c'est un pécheur, puisqu'il a agi un jour où on n'a pas le droit de travailler. Et c'est donc un homme dangereux pour la foi en Israël. Il faut qu'on s'en débarrasse. » De son côté, l'aveugle n'a pas les mêmes compétences théologiques, mais il oppose simplement la réalité des faits. Si Jésus a transgressé le sabbat, s'il a péché, je ne sais pas, dit-il. Mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et face à la brutalité, à la brutale réalité des faits, les pharisiens se fâchent. Au lieu de se remettre en question, ils se mettent à insulter l'aveugle et lui disent, « Toi, tu es né tout entier dans le péché, comment peux-tu venir nous faire la leçon maintenant ? Ta cécité, c'est la preuve de la malédiction divine sous laquelle tu es né. » Et en conséquence de sa foi en Jésus, l'aveugle qui a été guéri va être le premier à être excommunié de la synagogue. Suivre Jésus a un coût. Alors j'aimerais terminer et vous poser une question. Quand Jésus surgit dans la vie d'une personne, sa lumière peut avoir deux effets. Soit elle éclaire, soit elle aveugle. Les pharisiens se sont enfermés dans leur certitude, bardés de convictions théologiques. Ça ne pouvait pas être autrement que ce qu'ils savaient. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas cru Jésus. Et ils ont remis en question l'action de Jésus. Où est-ce que j'en suis ce matin? Est-ce qu'il y a des domaines de ta vie que Christ aimerait éclairer de sa lumière? Est-ce qu'il y a des angles morts dans ma vie qui m'empêchent de faire pleinement confiance à Jésus et d'obéir à sa parole? Suis-je malade? Peut-être au sens physique, mais aussi psychologique, spirituellement. Suis-je malade de quelque chose que Jésus aimerait venir guérir dans ma vie, mais que je refuse, que je lui refuse de laisser toucher, ou je me refuse à lui. Est-ce que je suis prêt à laisser tomber des certitudes qui m'empêchent de reconnaître sa lumière? Est-ce que je suis aveuglé par ma propre suffisance? Ce matin, Jésus s'arrête près de chacun d'entre nous. Il est là, il veut prendre le temps de venir nous guérir, de manière holistique, dans toutes les dimensions de notre être. Laissons-le agir. La scène que nous prendrons tout à l'heure nous y invite aussi. Laissons Christ agir en nous. Reconnaissons-le comme la lumière de ce monde. Amen.